Les séminaires du Collège de France.
Bienvenue à la première séance du séminaire associé au cours sur les structures de contrôle. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Collange, donc qui est chargée de recherche INRIA à Rennes au laboratoire IRISA. Et donc Caroline et ses collègues donc sont des spécialistes d'architecture des ordinateurs, mais aussi, enfin avec une vision logicielle et compilation. Elle va nous montrer un peu aujourd'hui le contrôle. Qu'est-ce que ça devient, ce contrôle exprimé dans les langages machines avec des sauts dans tous les sens? Qu'est-ce que ça devient vraiment au niveau des circuits? Et en particulier, comment ça peut se concilier avec du parallélisme, de l'exécution donc rapide par plusieurs unités de calcul? Merci Caroline.
Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Xavier pour l'invitation à faire ce séminaire. Donc Xavier a fait l'introduction pour moi. Je vais parler effectivement d'architecture, donc de contrôle dans en matériel. Ce que j'ai présenté va être un peu en complément de ce qu'a présenté Xavier sur le contrôle dans les langages, où on a, comme on a vu, toutes sortes de de façon d'exprimer le contrôle dans les langages de haut niveau, mais quasiment tout le temps on va finir par se ramener à juste des go-to au niveau du langage machine. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que deviennent ces go-to dans les architectures de processeurs et comment on va les exécuter efficacement. Alors, par efficacement, on peut entendre deux choses. Soit aller le plus vite possible sur un code qui est séquentiel. Donc ça, c'est ce que font les processeurs généralistes, les CPU. Et puis, on peut aussi vouloir faire le plus de choses possible en un temps donné. Donc ça sera plutôt des machines parallèles, et notamment les processeurs graphiques ou GPU. Donc, on va parler tour à tour de ces deux familles d'architecture, et je vais utiliser un point de départ qui sera un peu un fil rouge dans mon exposé, qui est la machine analytique. Alors la machine analytique a été, alors non pas construite mais dessinée, où Charles Babbage a écrit les plans de cette machine, qui est en fait ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un ordinateur universel, donc Turing complet, réalisé en mécanique, ou qui aurait été réalisé en mécanique s'il avait été. Et cette machine était programmée par Ada Lovelace, qui a écrit les premiers programmes donc dans les années 1840. Et en fait, quand on regarde l'architecture de cette machine, c'est relativement proche de ce qu'on apprend dans un cours d'architecture de licence. Alors malgré tout, Babbage et Lovelace étaient peut-être en avance sur leur époque, mais la machine analytique elle-même n'a jamais été construite. Il a fallu attendre d'avoir des technologies plus efficaces que les roues dentées pour faire des ordinateurs universels. Alors voici une illustration qui est tirée de la bande dessinée de Sidney Padua, The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage, alors qui, en plus d'être une fiction divertissante, est aussi une source d'information technique sur la machine analytique. Et on peut voir ici, donc on a des cylindres composés de roues dentées les unes par-dessus les autres, dont chacune maintient un chiffre. Donc on a des nombres comme ça alignés à la suite. Donc ceci était appelé le store, l'entrepôt, donc qui est une sorte de mémoire que nous on va voir comme un banc de registres. Et derrière on a des crémaillères qui peuvent tirer les nombres, donc chiffre par chiffre, depuis l'entrepôt vers ce qui est appelé le moulin de mille, qui va lui faire les calculs, par exemple des additions, des multiplications sur ces nombres. Donc ici aussi chiffre par chiffre en propageant les retenues. Pour contrôler tout cela, on a des cartes perforées cousues ensemble, donc comme dans les métiers jacquard, comme on a vu dans le cours. Et il y a une certaine quantité de mécanique, qui, notamment des arbres à cames, qui va orchestrer le déroulement de toutes ces opérations. Alors, plus schématiquement, et de façon peut-être moins jolie, j'ai représenté ces étapes ici. Alors, on va les voir plus en détail en déroulant l'exécution d'une instruction dans la machine. Alors, tout d'abord, on a un mécanisme qui va entraîner des cartes perforées. On a entre autres deux types de cartes qui sont les cartes d'opération qui disent quelles opérations vont être effectuées, par exemple ici une addition, et des cartes variables qui indiquent sur quelles données vont être effectuées ces opérations. Donc quelles entrées dans l'entrepôt vont être accédées. Donc une fois les cartes lues, on va accéder à l'entrepôt, donc la machine va aller chercher dans l'entrepôt les valeurs qui correspondent aux registres V1 et V3, donc en première position, en troisième position, dans la rangée de cylindres. Donc ici, ça fait 42 et 17, et va envoyer ces valeurs avec les crémaillères vers le moulin pour calculer. Ensuite, le moulin va être configuré pour effectuer l'opération décrite par la carte perforée d'opération. Et le résultat pourra être écrit à nouveau dans l'entrepôt, avec des crémaillères dans l'autre sens. Et enfin, Lovelace et Babbage prévoyaient que, suivant le signe du résultat de l'opérateur, le mécanisme de lecture puisse soit passer la carte suivante, ce qui se passe en général, soit rembobiner pour revenir à un point connu, à un point précis dans le programme. Et donc ça, c'est un go-to, en fait, c'est un saut conditionnel. Donc on retrouve tous les mécanismes d'un jeu d'instructions, disons, moderne, avec des séquentiels, avec des branchements, à l'exception notable des accès à la mémoire externe. Alors maintenant, on va voir on va avancer un peu dans le temps et voir qu'est-ce qui s'est passé depuis Babbage et Lovelace, donc en particulier dans les architectures de processeurs généralistes. Alors, l'objectif qu'on a, ça va être d'aller le plus vite possible et à technologie donnée, pour aller plus vite, il va falloir faire plus de choses à la fois, trouver des opérations qui sont indépendantes et les exécuter ensemble. Donc, j'ai repris ici un exemple d'un article d'Ada Lovelace, qui est un programme qui calcule la formule A fois X puissance N divisé par B fois P fois Y. Donc Ada Lovelace a affecté les entrées et les variables intermédiaires du programme dans les variables V1 à V9 de la machine, donc les registres, on appelle aujourd'hui. Donc vous pouvez écrire le programme sous la forme d'une suite d'instructions élémentaires qui vont faire chacune une multiplication puis une division. Donc si on exécute le programme instruction par instruction, ça va nous prendre 6 étapes, 6 temps de cycle. Mais on voit que si on imaginait une machine analytique plus complexe qui disposerait de deux opérateurs de multiplication, de multipliers, on pourrait exécuter par exemple au premier cycle l'instruction 1, pardon, au deuxième cycle les instructions 2 et 4, puis 3 et 5, et enfin la division, et en seulement 4 étapes, exécuter le programme. Cependant, pour y arriver, ça impose d'exécuter l'instruction 4 avant l'instruction 3. et donc de changer l'ordre des instructions du programme. Et donc ce que vont faire les architectures de CPU modernes, c'est avoir une fenêtre d'instruction dans laquelle les instructions peuvent être préordonnées pour être exécutées non pas dans l'ordre où elles apparaissent dans le programme, mais dans l'ordre de leur dépendance, en faisant une sorte de parcours de graphe, du graphe de flux de données, du graphe de dépendance. Ainsi, l'équivalent moderne de la machine analytique, donc un processeur Intel Core i7, va avoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les unités, mais on retrouve globalement la lecture des instructions depuis la mémoire, du décodage, et un envoi à un certain nombre de ports d'exécution, donc des unités de calcul ou d'accès mémoire indépendantes qui peuvent fonctionner ensemble, en même temps. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est la taille de la fenêtre. Donc ici, fenêtre d'exécution dans le désordre. Donc c'est le nombre d'instructions dans lequel l'ordonnanceur va pouvoir piocher pour les réordonner suivant l'ordre des dépendances. Donc on voit qu'on va avoir des centaines d'instructions en vol à un instant donné, plutôt qu'une une carte à la fois. Alors, on peut voir donc cette fenêtre qui descend dans le programme avec un étage d'acquisition des instructions qui va les chercher en mémoire. Donc ici, on a le programme qui est linéaire. Donc on va lire les instructions dans l'ordre, éventuellement plusieurs à la fois, mais en suivant l'ordre du programme. Ensuite, elles sont décodées. On va voir qu'on va faire du renommage, dont je parlerai par la suite. Et ensuite, une fois qu'elles sont dans cette fenêtre, les instructions peuvent être exécutées dans un autre ordre que celui du programme. Et enfin, on a une étape de confirmation, commit, qui est une sorte de voiture balai, qui va s'assurer que toutes les instructions qui arrivent là sont remises dans l'ordre. Donc la confirmation va restaurer l'ordre initial et va rendre visible tout ce qui est effet de bord. Donc par exemple, les écritures mémoire qui ont un effet sur l'extérieur. En effet, jusqu'à la confirmation, les instructions peuvent être spéculatives. C'est-à-dire qu'on peut commencer par démarrer des instructions, même si on n'est pas sûr d'en avoir besoin par la suite, pour gagner du temps. Donc ça, c'est la spéculation qui est un mécanisme capital pour arriver à nourrir cette machine d'exécution des ordres et avoir des fenêtres de centaines d'instructions. Alors, plus exactement, il y a deux obstacles qui se posent, entre autres, à avoir des fenêtres de réordonnancement longues. La première, c'est que c'est les dépenses de contrôle, puisque on a vu qu'on a des instructions de branchement, des go-to conditionnels. Et dans les programmes modernes, dans les jeux d'instructions, les architectes considèrent qu'il y a de l'ordre d'une instruction sur 5 qui est un branchement, en ordre de grandeur. Donc ça veut dire que si on a une fenêtre d'instruction de 350 instructions, dedans il y aura environ 70 branchements. Et la direction de chacun de ces branchements peut être conditionnelle et dépendre de valeurs qui seront calculées par d'autres instructions et qui peuvent dépendre du branchement qui est juste avant, par exemple. Donc pour s'en sortir, on va utiliser justement la spéculation, on va prédire, on va essayer de deviner quelles directions sont prises par chaque branchement et avancer même si on se trompe de temps en temps. Ensuite, l'autre obstacle, c'est les dépendances de données de type, enfin les dépendances quand on a une écriture après une lecture, donc par exemple dans, ici, on a une instruction qui va lire le registre R1, suivie dans l'ordre du programme par une instruction qui écrit dans R1. Alors, si on ne peut pas se permettre de réorganiser une instruction, parce que si j'exécute la multiplication d'abord, elle va écraser le registre R1 par son résultat, ce qui fait que la valeur précédente de R1 sera perdue et ne pourra pas être utilisée par l'addition. Et là, la solution, donc ça introduit des dépendances dans le programme qui ne sont pas des vraies dépendances, qui sont des dépendances dues à des conflits de ressources du fait qu'on réutilise les mêmes numéros de registres. Et donc ça, on va s'en tirer en renommant les registres. Alors pour revenir plus en détail sur la prédiction de branchement, on va prédire, donc on a un mécanisme avant de lire les instructions qui va prédire la direction que prend le programme. Donc si le branchement est pris ou non pris. Donc c'est un système en fait d'apprentissage donc, qui est implémenté en matériel. Donc il faut qu'il soit suffisamment rapide pour faire une prédiction tous les cycles d'horloge. Et qui va apprendre par l'observation le comportement des branchements du programme. Et ça marche parce que la plupart des branchements ne sont pas aléatoires. Ils ont des comportements qui peuvent être cycliques, qui peuvent être corrélés entre différents branchements, ou il peut y avoir des biais statistiques. Par exemple, un test d'erreur sera vrai seulement quand il y a une erreur, donc on peut espérer rarement. Et donc on a des prédicteurs qui sont très efficaces, donc qui se trompent très peu, qui font de l'ordre de quelques erreurs par milliers d'instructions. Donc ainsi, on peut prédire pas seulement la direction d'un branchement, mais les directions d'une succession de branchements consécutifs. Donc ainsi, je vais schématiser le flux d'exécution du programme avec toujours l'étape d'acquisition puis de confirmation, et on va prédire les différents branchements dans la fenêtre d'exécution. Alors, qu'est-ce qui se passe si on se trompe ? Eh bien, dans ce cas-là, on va devoir jeter les instructions qui sont sur le mauvais chemin. Et on revient en arrière en recommençant l'acquisition des instructions au branchement où on s'est trompé et en reprenant sur le bon chemin. Alors, c'est le branchement où on se trompe, ce n'est pas forcément le premier ni le dernier branchement. Ça peut être puisqu'on les exécute dans le désordre. Donc on peut avoir plusieurs misprédictions de branchement à la suite. Mais on sait réparer dans tous les cas en revenant. Dans le pire des cas, on ramène l'acquisition des instructions au niveau où on était à la confirmation. On est sûr que le travail est fait jusqu'ici. Alors, maintenant, en ce qui concerne le renommage de registre, là aussi, je vais encore une fois revenir à l'époque d'Ada Lovelace. Donc, Ada Lovelace avait comme problématique d'exprimer les programmes donc qu'elle écrivait pour la machine de Babbage sous une forme mathématique. Et donc, le problème quand on a des instructions qui font des assignations à des registres, ici des variables, c'est que si on utilise la même variable plusieurs fois, on va avoir un temps implicite qui fait que la sémantique du programme va dépendre de l'ordre des instructions. Et donc la solution d'Ada Lovelace, c'était d'ajouter des indices donc en haut à gauche dans sa notation qui sont incrémentés à chaque affectation d'une variable. Donc ici par exemple la variable V1 en est à son affectation 1, donc sera lue par cette instruction. Et ensuite, si on la réaffecte, ça va être une nouvelle variable, V1, indice, enfin qu'on expose à gauche, 2. Et ainsi, on peut écrire ça. On se ramène à la feuille de calcul qu'on a vue tout à l'heure, avec les équations, déjà dans le bon ordre. Et ces équations sont toujours vraies, quel que soit le temps. Donc ça permet aussi pour les processeurs d'aujourd'hui d'éliminer ces fameuses dépendances écriture après lecture, puisqu'ici on voit qu'on peut réordonner les équations tant qu'on respecte la causalité. Donc c'est ce que font les processeurs généralistes en matériel, où on va avoir une approche essentiellement similaire, où on renomme à la volée les registres du programme, les registres architecturaux, en registres physiques de la machine, dont on a une quantité supérieure. Et alors, comme on n'a pas une infinité de registres en machine, on va recycler les registres au fur et à mesure. Ce qu'on peut faire, puisqu'on a une fenêtre de taille finie, et qu'au bout d'un moment, on confirme les instructions et on écrit les résultats. Donc on a vu les deux mécanismes principaux, il y en a plein d'autres, et on va commencer par ceux-là, la prédiction de branchement et le renommage de registre dans les processeurs généralistes. Alors maintenant, je vais parler de l'autre type de processeurs, donc tout ce qui est processeur graphique ou les machines STMD. Alors, ce que j'aime bien considérer comme un processeur graphique, c'est le métier Jacquard, parce qu'on peut voir ça comme une machine qui est programmable avec des cartes perforées et qui à la fin fait un dessin. À la fin, on a un dessin fait physiquement sur du tissu, par tissage. Donc le métier Jacquard, si vous vous rappelez, on a donc déjà dans un métier à tisser, le plus simple, on va avoir des fils, des rangées de fils verticaux tendus, et on va alterner entre amener vers l'avant les fils PR par exemple, passer une navette avec un fil transversal, et inverser ensuite les rangées paires et impaires et repasser dans l'autre sens, et ainsi tisser notre tissu. Et dans le métier Jacquard, on va pouvoir contrôler fil par fil quel est le fil qui va passer devant, et ainsi la couleur qui apparaîtra sur le tissu. Donc on a pour chaque trou, on va avoir un crochet qui va tirer ou non, en fonction de s'il y a un trou présent ou pas, le fil correspondant vers l'avant. Et donc ça, il y a deux choses intéressantes dans cette architecture, si on peut dire. Il y a déjà le parallélisme. On va agir sur tous les fils, donc les fils verticaux, les fils de chaîne, en même temps, ou environ la moitié. Et on va contrôler cette action par un masque. Donc on peut voir ça comme donc les trous sont des 1 ou des 0. Donc on peut voir ça comme une chaîne binaire où chaque bit va contrôler un crochet et donc un fil. Alors ça, c'est une analogie, l'analogie du tissage qui a été reprise par Nvidia dans ses GPU. Où les fils verticaux, je crois qu'on appelle ça des fils de chaîne en français, sont appelés warp en anglais. Et donc ça, c'est la terminologie que Nvidia utilise dans ses processeurs graphiques pour dire quel thread on fait passer devant. Non, je reviendrai là-dessus dans la suite. Alors, toujours dans le 19e siècle, mais une trentaine d'années plus tard, retour à la machine analytique. Alors, les plans de la machine prévoyaient que donc des cartes d'opération et des cartes de variables distinctes. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des mots d'instruction qui contiennent à la fois l'opération qui va être faite et les données, les registres sur lesquels elle agit. Mais sur la machine analytique, on aurait pu, si elle avait été construite, avoir une même carte opération qui agit sur différentes cartes de variables à la suite. Donc Ada Lovelace donne l'exemple de 7 multiplications successives. Donc on peut mettre une carte de multiplication configurée, qui va configurer toute la machinerie pour faire des multiplications, et ensuite on mouline les multiplications à la suite. Donc Ada Lovelace parlait de « The same operation will be performed on different subject of operation ». Et en langage plus moderne, on appelle ça « Single Instruction Multiple Data », SIMD. Mais il y a la même idée quand on fait la même opération sur plusieurs données. Alors, si en plus nos opérations sont indépendantes, qu'elles peuvent être faites en parallèle, on va avoir comme une opération vectorielle. Par exemple, une addition de deux vecteurs ou une multiplication composante par composante. Alors, effectivement, Ada Lovelace n'employait pas le mot de vecteur puisque ça n'avait pas encore été inventé. Alors, maintenant, on a tous les ingrédients qu'il faut pour introduire le mécanisme d'exécution des processeurs graphiques modernes. Donc, l'idée de base, c'est qu'on va avoir un programme qui va être dont on va lancer plein d'instances, par exemple, pour calculer les valeurs de tous les pixels de l'image. On va avoir à peu près la même formule, éventuellement avec des conditionnels dedans. Et on va faire ce calcul sur des données différentes. Alors, on pourrait exécuter indépendamment les threads, par exemple dans un processeur multicœur, et avoir un cœur par thread. Mais ça a l'inconvénient de nécessiter beaucoup de traitement pour assez peu de calculs au final, puisqu'il faut aller chercher les instructions mémoire, les décoder, les dire aux opérandes, etc. Donc on pourrait factoriser, enfin c'est ce qu'on fait, on factorise le travail redondant d'aller lire et décoder les instructions en synchronisant les différents threads pour qu'ils exécutent la même instruction au même moment, ou autant que possible. Et ainsi, on réduit le coût de lecture et décodage des instructions. Alors, une fois encore, on a la question de comment on gère le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un branchement conditionnel, un go-to. Alors, en effet, plusieurs des threads différents vont pouvoir suivre différents chemins dans le programme. Et donc, on va gérer ça avec la technique du, comme le métier à tisser Jacquard, avec des masques. Donc ici, j'ai pris un exemple où on a une structure conditionnelle à deux branches qui va tester si le numéro du thread est inférieur à 2 et qui va être exécuté sur 4 threads numérotés de 0 à 3. Donc les deux premiers threads vont prendre la première branche. Donc au départ, on va avoir un masque où tous les threads sont actifs, et puis on va désactiver les threads qui ne participent pas. Donc ici, on va mettre les masques, les bits de masque de T2 et du thread T2 et du thread T3 à 0. Et ce masque signifie que seuls les threads dont le bit de masque est à 1 exécutent réellement les instructions qui sont traités par la machine, et les autres ne font rien. Donc ainsi, on va avoir une exécution conditionnelle partielle où tous les threads vont parcourir le même code, mais certains vont être débrayés et ne pas écrire de résultat. En fait. Et ainsi de suite, pour l'autre branche, on va activer les autres threads, et à la fin, on réactive tout le monde, puisqu'on arrive à un point de reconvergence entre les deux threads. Et donc, le comportement va être le même que si on avait exécuté les threads indépendamment, avec une valeur de x qui sera bien 1 pour les deux premiers threads et 2 pour les threads suivants. Donc voici pour l'idée de base des processeurs graphiques. Donc je vais maintenant entrer dans une partie plus technique sur de la recherche actuelle. Sur comment on peut faire pour concilier ces deux architectures, ces deux approches, notamment la prédiction de branchement, renommage de registre, l'exécution spéculative dans le désordre et l'exécution SIMT, où on va masquer les instructions vectorielles. En effet, au début du siècle, on avait des processeurs graphiques et les processeurs généralistes étaient des composants séparés. On pouvait acheter une carte graphique dans le commerce et la brancher dans son PC. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Sur un ordinateur portable ou un téléphone, on va avoir de plus en plus des GPU qui sont intégrés dans la même puce que le reste du système. Mais néanmoins, d'un point de vue de programmation, on continue à les considérer comme des composants séparés. Il y a des modèles de programmation complètement distincts entre les deux. Donc une question de recherche qui reste ouverte, c'est est-ce qu'on pourrait construire des futurs processeurs hétérogènes avec toujours des cœurs optimisés, soit pour la latence, soit pour le débit, parce qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois, mais que les cœurs optimisés de débit prennent des caractéristiques à la fois des CPU pour rester efficace sur du code généraliste et avoir l'efficacité des processeurs graphiques. Alors ça demande de résoudre deux problèmes en rendant compatible l'approche SIMT avec la prédiction de branchement, déjà, puisque quand on prédit des branchements, le mécanisme suppose qu'il y a un ordre total entre les instructions et qu'il est possible de revenir en arrière si on s'est trompé. Et en SIMT, c'est pas clair ce que veut dire revenir en arrière quand on est passé par plusieurs chemins différents pour arriver à un point, par exemple si des threads divergent puis reconvergent. Qu'est-ce que signifie revenir en arrière, un état connu. Donc il est plus difficile de... la notion de un branchement peut être à la fois pris et non pris pour différents threads. Donc ça demande de revisiter la prédiction de branchement. Il y a aussi des enjeux avec le renommage, parce que quand on renomme les registres pour éliminer les dépendances écriture après lecture, on suppose aussi qu'un registre, un registre de programme, on peut renommer en un seul et unique registre physique. Mais dans le cas du SIMT, comme les instructions peuvent écrire partiellement dans le banc de registre avec une écriture masquée, on peut se retrouver dans le cas, par exemple, si on a deux branches, une conditionnelle où on va affecter deux valeurs différentes à un même registre. Donc, comme ce sont deux assignations différentes, elles vont être renommées en deux registres physiques différents. Par la suite, les threads peuvent reconverger. Et ensuite, on va vouloir relire la valeur de ce registre R1. Et là, on n'a plus un seul registre physique, on en a deux. Donc là, on va être bien embêté pour savoir en quoi traduire ce registre R1 comme registre physique. Alors, on va proposer des mécanismes pour lever ces limitations. On va partir d'une architecture de processeur généraliste moderne, donc qui dispose donc il peut exécuter plusieurs threads dont les instructions seront mélangées, comme les processeurs multithreading simultanés actuels. On va voir les tâches d'acquisition des instructions, le renommage avec une register alias table, RAT, et des unités, donc à la fois des unités vectorielles, des unités scalaires et une unité de branchement. Donc c'est les ports qu'on avait vus tout à l'heure dans le processeur Core i7. Et cette architecture, on va l'augmenter avec trois unités. Donc on va ajouter un mécanisme de sélection des chemins et des warps, plutôt que simplement des threads, on va mettre en deux niveaux. On va augmenter la table de renommage, la register alias table en pirate, path identifying register alias table. Et on va augmenter l'unité de gestion des branchements par une table des chemins. Et avec ces trois mécanismes, ces trois unités, on va pouvoir gérer la prédiction de branchement et le renommage. Donc on a vu que la difficulté, c'est qu'on a plusieurs chemins. On va déjà essayer de simplifier le problème. En disant qu'on va fixer un ordre total à l'acquisition, donc qui est un ordre arbitraire, puisqu'on a le choix entre différents chemins, et on va garder le même ordre lors de la confirmation des instructions. Donc ça permet de simplifier significativement la logique de traitement. On va introduire une asymétrie entre la gestion des convergences et la gestion des divergences. On va détecter les divergences tout au début, dès l'acquisition des instructions. Par contre, on va retarder le traitement des divergences lors de l'exécution. Et ça simplifie aussi la logique de traitement, parce que ça garantit que chaque thread, si on regarde chaque thread individuel, il va suivre qu'un seul chemin à la fois, et on ne va pas essayer de diverger, d'explorer plusieurs chemins pour un thread donné. Donc on va utiliser la table des chemins pour maintenir, en fait, pour garder la trace du flow de contrôle, se rappeler des masques de chaque chemin, et on va généraliser l'usage des masques à la confirmation, ou plutôt que de confirmer une instruction, on va généraliser ça à confirmer une instruction vectorielle masquée, où chaque voie va produire soit les effets de bord qui étaient prévus si elle devait être exécutée, soit ne fera rien. Donc on peut éventuellement calculer des choses qui ne sont pas nécessaires, mais à la fin, on s'assure que on ne produit pas d'effets visibles à l'extérieur sur quelque chose qu'on ne devait pas faire. Donc, avec les chemins de cette table de chemin, on va représenter donc par chemin j'entends un point dans le programme et l'ensemble des threads qui sont à ce point. Donc on va pouvoir représenter les compteurs de programme des différents threads par un ensemble de chemins en factorisant les threads qui sont au même point. Donc pour chacun des chemins des instructions qui sont en vol dans le pipeline, on va maintenir le masque. Alors c'est un masque spéculatif, au sens où il peut y avoir des passagers clandestins, il peut y avoir des threads qui sont actifs, mais qui plus tard se révéleront être sur un mauvais chemin et seront annulés. Et donc on va progressivement réduire le masque pour arriver au moment de la confirmation au masque réel. Et on va calculer avec des instructions, des micro-instructions qu'on va injecter au moment du renommage, des points de... Donc à chaque point de convergence, on va calculer le masque du nouveau chemin en fonction des masques des chemins précédents. Donc ici, ce qu'on veut, c'est faire l'union des threads qui arrivent dans la confluence, la convergence des deux chemins. Donc une union d'ensemble sur des bits de masque, c'est un OU logique. Et inversement, on va calculer les divergences, les masques des chemins qui divergent en fonction du masque du chemin précédent et du prédicat, de la condition du saut. Donc là aussi avec des instructions booléennes. Donc comme ça, on va transformer notre flot de contrôle implicite en flot de données explicites qu'on va calculer. Alors, pour donner un exemple plus concret, on va partir ici d'un chemin où tous les threads sont actifs. Donc on va lire les données, les instructions sur ce chemin H1. Donc tant qu'on ne fait pas de branchement, on reste sur le même chemin H1, puisqu'on on suppose qu'on ne peut pas avoir de saut si on. On peut avoir des divergences si on n'a pas de saut. Une fois qu'on rencontre une instruction de branchement qui potentiellement peut être divergente, on va par précaution créer une nouvelle entrée dans notre table de chemin avec un chemin H2 qui correspond à ce chemin dans le graphe de flot de contrôle. Pardon. Et pour l'instant, on va garder le même masque qu'avant. Donc pour l'instant, H1 et H2 sont parcourus par les mêmes threads. Mais par la suite, on peut se rendre compte que l'instruction de branchement, en fait, était divergente. Ici, les threads, donc les threads du milieu, les threads T1 et T2, ne prenez pas le chemin H2, mais en fait prenez un autre chemin qu'on va créer et appeler H3. Et on va déplacer donc les bits de masque de ces deux threads depuis le chemin H2 vers le chemin H3. Bien sûr, on continue l'exécution et on peut récursivement rencontrer d'autres branchements. Donc on va créer d'autres chemins et qu'on va raffiner progressivement lorsqu'on exécute les branchements et qu'on connaît les valeurs réelles des conditions, on va déplacer les threads dans le chemin qui leur correspond. Et à la fin, on va avoir des threads qui reconvergent, et donc là, on va créer un nouveau chemin encore pour fusionner les masques, donc ici H6, qui contient la fusion du masque H4 et du masque H5. Et de même pour H7, qui sera la fusion de H6 et H2. Et entre-temps, on va avoir aussi la voiture balai, la confirmation, qui va avancer. Et on pourra libérer les ressources, donc libérer le chemin H1, dont on n'a plus besoin une fois qu'on a fini d'exécuter et confirmer toutes les instructions de ce chemin. Donc ainsi, on maintient les informations de contrôle de toutes les instructions qui sont dans la fenêtre de réordonnancement. Donc en ce qui concerne maintenant le renommage, donc on a vu qu'il y a une difficulté parce que un registre peut avoir plusieurs registres physiques différents après un point de reconvergence. Donc on va ajouter du matériel qui va permettre à un registre du programme d'être associé à plusieurs registres physiques en fonction de leur masque. Et on va injecter aussi des micro-instructions qui ont fusionné différents registres physiques pour les compacter en un seul registre physique. Donc ici, par exemple, après la reconvergence, on a besoin d'un numéro de registre unique qui contienne un mélange de 42-17, un mélange des registres R1A et R1B. Et en fait, on va calculer cette opération de mélange à partir de la condition du saut et des valeurs des deux registres. Alors, potentiellement, ça voudrait dire qu'on peut avoir autant de registres physiques associés à un registre du programme que de threads dans un warp, donc typiquement 32 ou 64. Et ça, c'est beaucoup trop pour être réalistiquement implémenté dans le matériel. En fait, ça reviendrait à faire du renommage indépendant pour chaque thread. Néanmoins, on peut remarquer qu'on peut toujours se ramener à deux registres physiques par registre architectural, en injectant des opérations de fusion, de sélection conditionnelle pour compacter les entrées. Donc ici, dans notre pirate, on va associer à chaque registre du programme, donc R1, R2, etc., jusqu'à deux registres physiques. Donc par exemple, R1 est associé à P1 ou P2, et pour savoir si on doit choisir entre P1 ou P2, on va avoir aussi un numéro de registre de masque, un numéro de registre de chemin, H1, où H1 est stocké dans la table de chemin et dispose d'un masque. Et donc ça nous dira que R1 correspond pour les masques qui sont, pour les registres, pour les, pardon, les threads qui sont dans le masque, dans le chemin H1, ce registre vaut P2. Sinon, pour les autres threads, ce registre vaut P1. Sinon, on peut avoir simplement une seule entrée où R2 sera stocké dans P2 pour tous les threads. Alors, que se passe-t-il si deux entrées ne suffisent pas ? À ce moment-là, donc ici, par exemple, on va réutiliser la même micro-opération de fusion en sélectionnant entre P2 et P1 avec le masque H1. Donc on va réaliser concrètement cette opération, on va calculer, et on va mettre ça dans un nouveau registre physique P4. Et comme ça, R1 sera assigné au registre P4, et on pourra ensuite, à nouveau, alors qu'on progresse un programme, employer l'autre entrée lors d'une divergence. Donc ainsi, on peut se ramener à deux entrées et avoir un coût en matériel qui est relativement raisonnable. On est passé d'une entrée à deux entrées, alors qu'on a multiplié le nombre de threads par exemple 32. Donc en conclusion, pour revenir sur ce qu'on a vu dans cet exposé, on a vu deux sortes d'architectures qui gèrent le contrôle de façon différente. D'une part, dans les processeurs généralistes, pour aller plus vite, on a dû se débarrasser en fait, des dépenses de contrôle. Par se débarrasser, on les a supprimées pour moi et simplement en spéculant sur le chemin pris. Et donc, ça permet d'aplatir complètement une fenêtre du programme et de réordonner les instructions dans l'ordre de leur dépendance, de leur dépendance de données et non pas de contrôle. D'autre part, on a vu les architectures de processeurs donc très parallèles, comme les GPU, où le but est de faire beaucoup d'opérations en parallèle de façon efficace, donc en minimisant la consommation énergétique, ou les ressources. Et donc pour ce faire, on va vouloir factoriser des opérations redondantes entre ici différents threads. Donc on va factoriser le contrôle qui est similaire entre différents calculs pour se concentrer sur les calculs eux-mêmes. Et on a vu qu'il était possible, au prix de quelques modifications dans l'architecture, de combiner ces deux approches. Alors j'ai montré avec les mains, de la façon à l'architecte, comment on faisait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, pour formaliser ne serait-ce que les propriétés de ces modèles SIMT dans les GPU. Alors, il y a quelques articles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et la semaine prochaine, vous verrez avec l'exposé de Delphine Demange qu'on retrouve des représentations intermédiaires dans les compilateurs, des outils similaires à ce qu'on a vu, notamment la fusion pour reconverger après une divergence en fusionnant les différents registres. Donc cette fois, de manière statique dans le compilateur et non pas à l'exécution dynamique. Donc, merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.